Je repeins, il est 8h.
Europe Matin Weekend.
Johan Tritz.
Et le journal, c'est avec Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Yann, bonjour à tous. C'est une information. Europe 1, Alger envisage d'augmenter de 50% ses livraisons de gaz à la France. Explication dès le début de ce journal.
Dernier jour de vacances d'été avant la reprise et l'arrivée du coup de blues. On va vous donner quelques conseils pour entamer cette rentrée du bon pied.
Et Nice et Marseille veulent aussi que ça se passe bien. Les deux clubs se retrouvent à l'Alliance Riviera un an après les débordements des supporters.
Une tendance météo, Marlène ?
Alors donc une journée ensoleillée pour ce dimanche avec encore quelques averses sur le relief de l'Est, sur le flanc Est du pays, avec un risque orageux également qui va se limiter aux Alpes du Sud et à la montagne Corse.
Merci Marlène, place au journal.
Europe 1.
La question énergétique n'était pas officiellement à l'ordre du jour du déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie. Voyage de 3 jours qui s'est achevé hier, mais Louis Draguenel, vous nous révélez ce matin que l'Algérie envisage d'accroître ses livraisons de gaz à la France.
Absolument, on parle même d'un engagement algérien d'augmenter de plus de 50% ses livraisons de gaz à la France. Alors, à ce stade, il s'agit d'un engagement oral du côté d'Alger, d'où l'absence de confirmation officielle. Selon nos informations, des échanges doivent avoir lieu dans les prochaines heures entre Engie et l'Algérie, à la fois pour confirmer cet engagement à la hausse et aussi pour entériner le volume de cette augmentation. Au cours de ce déplacement en Algérie, la délégation française a été très discrète sur le volet énergétique, mais Catherine McGregor, la patronne d'Engie qui était présente, a pu rencontrer le ministre algérien de l'énergie et des mines, ainsi que le patron de Sonatrach, le géant algérien de l'exploitation de pétrole et de gaz. Et c'est au cours de cet échange que le sujet a été évoqué. Pour terminer, rappelons que la France n'est pas très dépendante du gaz algérien, seulement 8%, mais la possibilité d'une hausse de livraison de plus de 50% dans le contexte actuel permettrait à Paris de faire face en partie à l'arrêt de l'importation du gaz russe.
Merci Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps, en France, Elisabeth Borne reprend la main. La première ministre a fait sa rentrée en assurant dans les colonnes du Parisien que le gouvernement ne laisserait pas les prix de l'énergie exploser. Elle annonce aussi la création d'un fonds vert d'1,5 milliard d'euros pour aider les collectivités locales à opérer leur transition.
Et en attendant, l'opposition se met aussi en ordre de bataille. Les universités d'été de la France insoumise se terminent aujourd'hui.
Et les socialistes, eux, sont à Blois. Hier soir, Olivier Faure les a appelés à dépasser les conflits concernant le rassemblement de la gauche au sein de la NUP, le premier secrétaire du PS, qui est donc en mission réconciliation, Victor Chabert.
Oui, c'était les premières universités d'été du PS après la NUPES et toutes ses composantes étaient représentées. L'écologiste Yannick Jadot, les insoumis Clémentine Autain et Alexis Corbière et le communiste Frédéric Bocara. En interne, les socialistes les plus sceptiques se sont abstenus de coups d'éclat et faisaient même bonne figure. Jérôme Guedj, député socialiste, se félicite de cette réconciliation.
Très sincèrement, si vous avez vu la nature des débats, la nature de chacun des ateliers qui se déploient ici, il y a une adhésion massive à l'idée du rassemblement de la gauche et des écologistes. Il s'est passé quelque chose. Il y a un an ou deux ans, on nous disait qu'il y a des gauches irréconciliables. La preuve, là, devant vous, c'est qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable.
Même si les cadres sont enthousiastes, pour certains militants, l'union ne peut être l'alpha et l'oméga d'une stratégie politique, comme le fait remarquer Daniel Encarté depuis 1975.
Il y a relativement peu de réflexion de fond, me semble-t-il, cette fois-ci. En gros, c'est on a eu raison de faire la NUPES, vive la NUPES, et grâce à la NUPES, on est reparti.
Pour clôturer ce week-end, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a donné un mot d'ordre à ses troupes désormais, tourner la page des divisions et faire vivre l'union.
Et dans le journal du dimanche, le président du groupe socialiste au Sénat appelle à rejeter tout faux progressisme, Patrick Kanner, qui répond à la tribune du ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui souhaitait la semaine dernière, dans le JDD, tourner la page de la social-démocratie.
8h04 sur Europe 1. À l'étranger, l'inquiétude grandit à Zaporijjia.
La centrale nucléaire fonctionne désormais avec des risques de fuite radioactive et d'incendie, d'après l'opérateur des centrales nucléaires ukrainiennes. Des risques causés par les bombardements dont s'accusent mutuellement Kiev et Moscou depuis des semaines. La mairie de Zaporijjia a distribué des comprimés d'iode aux habitants dans un rayon de 50 km autour de la centrale.
On reste à l'international, avec au moins 23 morts et 140 blessés. C'est en Libye.
Dernier bilan des combats entre milices qui ont éclaté la nuit dernière à Tripoli sur fond de chaos politique. Le gouvernement accuse le premier ministre rival d'avoir voulu s'emparer de la ville, tandis que le second accuse le premier de s'accrocher au pouvoir.
Au Pakistan, les inondations provoquées par la mousson ont tué plus de 1000 personnes.
Et c'est un dernier bilan qui prend en compte les 119 personnes encore décédées au cours des dernières 24 heures, alors que les pluies continuent de s'abattre sur une partie du pays.
Il est 8h05, la circulation maintenant qui pourrait être compliquée aujourd'hui sur les routes. Bien sûr, c'est le retour des vacances.
Et c'est encore orange dans le sens des retours, même rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes nombreux à rentrer pour ce dernier week-end des vacances d'été.
Et la rentrée tant redoutée par les enfants, mais aussi par les parents.
Et oui, fatigue, nostalgie, manque de concentration. Le retour à la réalité peut être un peu rude, Marine Sabourin.
Oui, alors avant toute chose, on rebranche son réveil avant la reprise. Pour ne pas brusquer son horloge biologique, on avance l'heure progressivement. C'est primordial car on sait que le manque de sommeil joue sur notre humeur. Ensuite, on arrête avec les vieilles habitudes, on change d'itinéraire régulièrement. C'est le conseil de Sabine Grégoire, psychologue du travail.
Redécouvrir son environnement géographique. On a besoin d'ouverture et c'est ce qui fait souvent du bien en vacances. Vous allez pouvoir vous ressourcer avant même d'avoir travaillé.
Et puis on se récompense, on travaille dur, alors il faut se féliciter.
S'instaurer comme ça un petit rituel qui nous fait du bien, ça peut être un soin, ça peut être une nouvelle paire de tennis pour aller courir, ça peut être une nouvelle coupe de cheveux. Instaurer un petit rituel, je me récompense de ma rentrée en quelque sorte, je m'encourage.
Alors attention à ne pas confondre ce moment passager avec la grosse déprime, la dépression qui est un état psychologique de vulnérabilité. Le coup de blues ne dure qu'un temps et rassurez-vous, les vacances de la Toussaint sont dans un mois et demi.
Voilà les petites astuces de Marine Sabourin.
Et la rentrée scolaire, on en parle tout à l'heure dans Europe Matin. Week-end, c'est à 8h14, juste après le journal. On parlera notamment de la hausse des prix de la cantine avec mon invité Najat Belhassen, coprésidente de la FCPE, qui sera tout à l'heure avec nous sur Europe 1. On continue de parler de coup de blues. On parlait juste avant avec Marine Sabourin. Coup de blues de la rentrée aussi pour les clubs de football amateurs.
Et oui, après la sécheresse et les restrictions d'eau pour l'arrosage, les terrains de football ont mauvaise mine. En Normandie, sur les 3 terrains du club du pays du Neubourg, seul celui en synthétique a survécu. Reportage de Chloé Lagadou.
Les mains sur les hanches et le regard fixé sur ces 2 terrains de football jaunis par le soleil, Yves, le président du FC Pays de Neubourg, constate les dégâts.
Et là, c'est sec, sec, sec. Donc, on subit. Quand il y a beaucoup de chaleur et des températures élevées, ça grille l'espace vert du terrain. C'est là que ça pose problème.
Des problèmes notamment pour la sécurité et la santé des joueurs, explique Carole, entraîneuse.
En fait, c'est comme si on courait sur du béton. Et au niveau des mollets, au niveau des chevilles, c'est pas les mêmes appuis avec les crampons. Comme le terrain est dur, ça échauffe aussi en dessous, au niveau de la plante des pieds. Ça crée des ampoules.
Les cours du club reprendront dans quelques jours. Alors Yves est inquiet, avec 2 terrains sur 3 inutilisables, difficile d'organiser les sessions d'entraînement.
On a pas loin de 400 licenciés. Donc si on est amené à ne pas s'entraîner sur les 2 terrains en herbe que l'on a ici, ça va nous poser de gros problèmes au niveau de l'occupation pour les créneaux de chaque catégorie.
Si la pluie n'arrive pas dans les jours qui viennent, des dizaines de licenciés pourraient se retrouver privés de cours. Alors pour limiter la casse, le club de football envisage par exemple de délocaliser les entraînements sur le terrain d'une commune voisine.
Le reportage de Chloé Lagadou.
Et la saison dernière, c'était aussi le chaos sur la pelouse de la Lance Rivera à Nice.
Et oui, un an plus tard, Marseille revient à Nice justement pour la 4e journée de Ligue 1. Match prévu à 15h, un horaire étonnant pour une telle affiche. Mais les incidents de l'an dernier n'y sont pas pour rien, Jean-François Pérez.
Une ambiance délétère, des jets de projectiles, dont un tout près du crâne de Dimitri Payet, des joueurs à cran, des supporters niçois qui envahissent la pelouse pour en découdre, des Marseillais qui se réfugient dans le vestiaire pour ne plus revenir. C'était le 22 août 2021, un soir de honte pour le foot français. Le gardien espagnol de l'OM, Paul Lopez, ne veut plus revivre de tels moments.
C'est une chose qu'on doit oublier, je pense, déjà. C'est un bon test pour nous. On va jouer contre une équipe qui a fini à côté de nous la saison dernière. Et on va voir. Moi, je pense que l'équipe est en bonne dynamique et la bonne mentalité pour jouer ce match comme ça.
Ces incidents ont hélas été suivis de beaucoup d'autres la saison passée, à Lyon notamment, où Dimitri Payet, encore lui, avait été touché par une bouteille et lancé des tribunes. Côté niçois, on assure que tout a été fait pour la sécurité du match. Le président Jean-Pierre Rivère adresse un message très clair à ses supporters.
Je pense que la leçon que nous avons prise sur ce sujet-là doit être retenue. Et j'espère que tout le monde dans le stade aura conscience que ce match-là doit être parfait.
Le président niçois le sait, son club joue gros cet après-midi. Les supporters de l'OM ont été interdits de déplacement. Il n'y aura donc, en théorie, que des Niçois dans les tribunes de l'Alliance Riviera.
Et puis l'autre grosse affiche ce soir, c'est Paris qui reçoit Monaco au Parc des Princes.
C'était le journal de Clotilde Duméa. À tout à l'heure, Clotilde a rappelé l'information de ce journal. Information Europe 1, Alger envisage d'augmenter de 50% ses livraisons de gaz à la France après la visite d'Emmanuel Macron dans le pays. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 8h30.